Bienvenue à notre nouveau cycle de conférences que nous commençons aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez eu le programme des différentes séances jusqu'au mois de mai. Nous avons retenu cette année un thème qui permet de parler de l'actualité, qui est un thème vraiment très trendy, hein, religion et politique en islam. Si on suit l'actualité, on nous en parle tous les jours, mais... Évidemment, on peut. C'est une association que nous essayons d'interroger ici. Donc, on nous dit l'islam est din et dawla, État et religion. C'est une formule qui, notamment, a été popularisée au début du XXe siècle par les réformistes, par Rachid Rida, etc., et qui sonne un peu comme une évidence, mais finalement, c'est une évidence peut-être quelque peu fondamentaliste. Est-ce que c'est si évident que ça ? Et d'autre part, même si c'est vrai que religion et État sont liés dans l'islam, ce qui n'est pas sûr, même si c'est vrai, encore faut-il voir selon quelles modalités, suivant les périodes et suivant les circonstances. Donc c'est quand même, disons, une formule qui est plutôt une formule d'affichage, de revendication, que quelque chose qui résumerait la situation concrète dans différents pays ou encore plus la situation dans la profondeur historique. Donc, on vous offre un programme qui essaye de réfléchir sur ce thème-là dans le temps et dans l'espace. Et comme il se doit, nous commençons par les débuts. Nous commençons aussi par les débuts parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, disons, ceux qui se réclament de l'islam politique se réclament des origines et prétendent en fait suivre la voie tracée par les origines. Donc c'est un peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui, autorité, pouvoir et obéissance aux origines de l'islam. La conférence de M. Pierre Lory, directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, que vous connaissez certainement, qui a écrit divers travaux sur l'islam classique, donc « Le rêve et ses interprétations en islam » chez Albin Michel en 2004, « La science des lettres en terre d'islam » en 2006, et le plus récent avec Mohamed Ali Amir Mouazi, ici présent, « Petite histoire de l'islam » chez Librio en 2007. Disons, quels sont les éléments de normes et quels sont les éléments inspirés de la religion qui se sont imposés au premier siècle de l'Égypte à qui obéissait-on et avec quels principes obéissait-on ? Alors, évidemment, nous sommes plus ou moins piégés par les constructions théologiques plus tardives à partir de l'époque abbasside et il faut un peu déconstruire tout ça pour pouvoir parler des origines de l'islam et du premier siècle de l'islam, sortir un peu de la doxa de l'enseignement islamique sur la question. Et je pense que c'est le propos de la conférence de Pierre Lory. La dernière chose, avant de lui donner la parole, je fais un peu de publicité pour les activités de l'ISM. Nous avons publié, il y a quelques semaines, ce petit livre de Françoise Michaud, professeure à Paris 1, « Les débuts de l'islam, jalons pour une nouvelle histoire ». C'est un petit livre qui se veut un manuel, et un manuel, qui fait la synthèse des travaux les plus récents et des discussions les plus récentes dans les domaines... parmi les érudits sur cette question-là. Donc, il est disponible aux éditions Téraèdre. J'ai même des petites fiches pour le commander, mais vous le trouvez très facilement sur Internet aussi. Alors, je donne la parole à Pierre Lory.
C'est bon le micro ? Bon, ben, merci Bernard Héberger. Bonsoir et merci à tous d'être là. Ce soir, je vous propose quelques réflexions, non pas sur la politique au sens précis du terme, ni sur le printemps arabe, comme Bernard Héberger vient de vous le dire, mais sur la notion de pouvoir et d'autorité en islam classique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut légitimer le fait d'obéir pour un groupe ou pour un individu, de suivre, parce qu'obéissance, ce n'est pas seulement obéir à un ordre, exécuter un ordre, mais c'est aussi cette notion qu'on appelle en général etteba, en arabe etteba, c'est-à-dire le fait de suivre un modèle, d'obéir à un modèle. Qu'est-ce qui donne suffisamment d'autorité pour suivre tel ou tel modèle ? Et inversement, qu'est-ce qui éventuellement peut justifier la désobéissance à ce modèle, la désobéissance à une autorité politique, par exemple ? Alors les textes fondateurs, à commencer bien sûr par ceux du Coran, insistent beaucoup sur le fait de la nécessité d'obéir à Dieu et à son prophète. Les deux sont complètement liés. C'est-à-dire que pour les hommes, on ne peut pas obéir à Dieu d'une autre façon qu'en obéissant aussi à son prophète. Il existe une série d'occurrences dans le texte sacré sur ce thème-là. Par exemple, « Obéissez à Dieu et à l'envoyé, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » 3e sourate, verset 132. Ou bien, ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si vous êtes en désaccord sur un point, renvoyez-le à Dieu et à l'envoyé. Sourate 4, verset 59. Quiconque désobéit à Dieu et à son envoyé est complètement égaré. Sourate 33, verset 36. Et ce qui est condensé dans un dernier verset, mais non pas le seul, quiconque obéit à l'envoyé obéit certainement à Dieu. Sourate 4, verset 80. Donc c'est un point central sur lequel on revient souvent et on va nécessairement revenir au cours de cet exposé. Ceci dit, y a-t-il une règle qui permet de comprendre les ordres divins, qui permet de savoir quels ordres sont véritablement divins et quels autres ne le seraient pas ? La question s'est posée, selon le Coran, à des prophètes eux-mêmes. Quelques exemples. Dans la sourate 37, il est dit qu'il fut demandé à Abraham de sacrifier son fils. Abraham consulta son fils, perçut l'ordre, cet ordre pourtant contraire à la morale courante, comme un ordre divin, et s'exécuta. Donc il a obéi à Dieu sur un point assez difficile à admettre. Mais en plus, ce qui complique la chose, c'est que cet ordre était une épreuve. C'est-à-dire que Dieu lui demande de sacrifier son fils sans avoir l'intention en fait qu'il le sacrifie vraiment. Ce qui montre bien que l'évidence, disons, de l'ordre divin n'apparaît pas toujours, y compris pour un prophète. Un deuxième cas, Moïse, dont le cas est évoqué dans la sourate 18, versets 65 et suivants, est dit s'être mis en quelque sorte à l'apprentissage auprès d'un homme qui avait la science de Dieu. Cet homme, qui lui dit qu'il n'arriverait pas à garder patience avec lui, accomplit des gestes bizarres, étranges et parfois révoltants, comme par exemple le fait de tuer un enfant. Moïse s'insurge. Et celui qui détenait la science de Dieu le remet à sa place et plus tard lui explique qu'en fait cet enfant allait devenir un malfaiteur et que donc c'était pour le bien de ses parents que lui a tué un enfant. Donc là encore, on voit le cas inverse, un ordre d'exécution, mais qui cette fois-ci était véritablement voulu par Dieu. Et enfin, j'allais dire le récit matriciel de la désobéissance dans le Coran, c'est le récit de la deuxième sourate, verset 30 et suivant, de la révolte de Satan, Iblis, qui est répercuté dans d'autres passages du Coran. Dieu demande aux anges de se prosterner devant Adam, sa créature faite d'argile. Les anges s'exécutent, ils sont obéissants, sauf Iblis, qui est Satan, sauf Satan. Et Satan justifie cet acte. Il dit, mais tu l'as créé d'argile, moi tu m'as créé de feu. C'est-à-dire qu'il y a un raisonnement. Moi, dit Satan, je veux bien t'adorer, toi, Dieu, parce que tu m'es supérieur, mais il y a un ordre naturel des choses, je ne me prosternerai pas devant quelqu'un qui m'est inférieur. Cet ordre, ce raisonnement est complètement refusé et Iblis est damné pour l'éternité. Bref, obéir à Dieu, ce sera le point principal de l'exposé, c'est aussi faire un travail d'interprétation forcément très, très délicat. Alors vous allez me dire que nous ne sommes pas des anges, que la question de ce qui s'est passé à la création d'Iblis ne nous préoccupe pas, mais pour les faits historiques, la question s'est bel et bien posée. En effet, de 622 à 632, le prophète Mohammed était présent à Médine. Il dirigeait un État, peut-on dire, et donc il pouvait trancher, il pouvait servir d'arbitre, tel qu'il est, de la façon dont il est évoqué dans les versets du Coran que je viens de citer. le hadith, c'est-à-dire les paroles du prophète reconnues comme canoniques, vont tout à fait dans le sens du Coran. Par exemple, un hadith dit « Quiconque est rebelle à Mohammed est rebelle à Dieu ». Ou encore un autre « Celui qui m'obéit, c'est à Dieu qu'il se soumet, celui qui me désobéit, désobéit à Dieu ». Les choses, d'une certaine manière, sont claires. Depuis 632, toutefois, Mohammed n'est plus là. C'est la 632, c'est la date du décès de Mohammed. Donc, il n'existe plus de leadership clair. Obéir, d'accord, mais à qui et dans quel domaine précisément? Ainsi se crée ce qu'on peut appeler un double bind, une espèce de lien antagoniste qui fait que d'une part, les musulmans sont invités à obéir, c'est impératif, c'est nécessaire pour leur salut, mais finalement, on ne sait pas très bien comment et à qui, la question est ouverte. Pour reprendre l'expression de Rémi Brague, nous avons affaire à une légitimité ouverte en attente d'un contenu qui viendra la remplir. Donc, la position du croyant sera désormais celle de l'interprétation et du choix. Et ce sera l'enjeu de toute la théologie musulmane au fil des siècles, cette espèce de cet affrontement colossal entre l'école Mu'tazilite et l'école Ash'arite. Nous n'allons pas faire de théologie, rassurez-vous, mais enfin, il y a eu quand même des grandes écoles qui se sont affrontées sur la question de savoir qu'est-ce qui prend la décision et comment prend-on la décision. Ceux qui disent nous sommes libres, nous avons un libre arbitre, le chef de l'État a un libre arbitre, et par conséquent, les comportements politiques sont forcément rythmés et régulés par cette responsabilité réciproque. Et il y a une autre école qui a plutôt insisté sur le fait que l'histoire exprime la volonté divine. Alors, cet impératif d'obéissance entraînera dans le monde sunnite plusieurs attitudes de pensée. J'en évoquerai juste trois, on pourrait en évoquer des centaines. Le premier point, c'est que l'obéissance à la loi, c'est-à-dire à l'aspect juridique, a suppléé à l'obéissance au pouvoir politique. Alors, je ne reviendrai pas sur les événements qui ont marqué les débuts de l'islam. Ils sont très riches et très complexes. Je ne ferai que vous renvoyer au livre, à l'excellent livre dont vous parlez, Bernard Héberger, tout à l'heure, « Les débuts de l'islam, jalon pour une nouvelle histoire » de Françoise Michaud, qui fait le point sur la recherche actuelle en histoire de façon très stimulante. La communauté musulmane s'est trouvée dans une situation très délicate, en pleine expansion des conquêtes, en 656. Le troisième calife a été assassiné, le quatrième calife, Ali, est contesté. Donc, l'islam s'installe dans la crise. L'équilibre est très difficile et pendant un siècle et demi, les califes vont se succéder, mais au rythme de révoltes, de coups d'État, de guerres civiles, faut-il dire. Ce n'est que progressivement que la dynastie Omeyyade va stabiliser la situation avant d'être renversée à son tour par la dynastie Abbaside en 750. C'est-à-dire que la communauté musulmane a recherché une définition très concrète du pouvoir politique, mais celui-ci ne s'est pas du tout imposé dès les premières générations de l'islam. Donc, la communauté a réagi de façon très antagoniste à tout ce qui s'est passé à partir de 656, et si on peut en tout cas tirer une conclusion principale, c'est qu'il n'y a eu aucune unanimité. C'est que précisément, c'est cette division qui est le plus caractéristique, disons, des communautés musulmanes de l'époque. La question posée est, qu'est-ce qui rend un dirigeant, un calife, un sultan, un gouverneur, digne d'être obéi? Il y a eu des camps donc antagonistes et qui restent antagonistes de nos jours, qui se sont opposés. Pour tout le courant chiite, le pouvoir non seulement politique, mais également religieux, doit revenir à des chefs charismatiques, enfin charismatiques parce que élus par Dieu, désignés par Dieu et soutenus par la providence divine, et qu'ils appellent leurs imams, et qui sont des descendants du quatrième calife, Ali. Donc, le courant chiite est très important. Il s'est multiplié en une multitude de sous-sectes parce que les candidats au pouvoir étaient extrêmement nombreux. Je ne m'étendrai pas dessus et je m'en excuse par avance auprès de mon collègue Mohamed Ali Amir Moezi, bien que les chiites représentent 15 à 20% des musulmans, mais le monde chiite est vraiment trop compliqué pour qu'on puisse l'inclure dans une synthèse. Ici en tout cas. Deuxième tendance, les kharijites, qui sont partisans d'un pouvoir responsable devant ces sujets. C'est-à-dire, à partir de, disons, du califat de Ali, ils affirment que le chef politique injuste perd son statut devant Dieu. Non seulement son statut de chef politique, mais son statut de croyant. Un musulman qui commet un péché grave et qui ne se repent pas de son péché grave n'est plus un musulman, c'est un apostat, et en tant que tel, il doit être combattu. Il refuse le troisième califat, celui de Othman, et celui de Ali, et ne veulent obéir qu'à un calife dont les compétences et les vertus sont reconnues. Mais, grande question bien sûr, qui va désigner cet imam, ce calife parfait? Selon quelles modalités? Quels seront ses pouvoirs? Jusqu'à quel point peut-on le suivre? Et la question est très problématique, et d'ailleurs, les kharijites sont divisés en une multitude de sectes qui n'ont pas eu d'impact sur l'histoire autre que par des petites principautés, précisément parce que l'imam parfait est très difficile à trouver. Alors que le troisième courant, qu'on appelle sunnite, enfin qu'on a appelé sunnite finalement après un certain nombre de générations, est un courant plus pragmatique. Il affirme qu'il faut obéir à celui qui détient le pouvoir effectif. Il affirme que les premiers califes, tous les quatre, sont des bons califes, inspirés par Dieu, enfin en tout cas pour les premiers, et que les califes suivants, les califes omeyyades, qui sont pourtant considérés par des tyrans, par bien des musulmans par ailleurs, sont aussi légitimés. Des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète, sont invoqués dans le climat sunnite. Donc, écoutez et obéissez à celui qui a le pouvoir, fût-il un esclave noir aux cheveux crépus. Ou bien, celui qui désapprouve quelque chose de son émir doit le supporter, car quiconque s'écarte d'un empan de son émir mourra comme un mécréant. Donc il y a là un principe de réalisme, et ce qui a permis au courant sunnite de préserver l'unité de la communauté en se contentant de chefs d'État, finalement, qui pouvaient être de médiocres croyants. C'est un principe de réalisme, c'est aussi un principe, il ne faut pas l'oublier, qui obéit à l'idée que la victoire militaire et le rapport de force positif est un signe qui exprime la volonté divine. Ce dernier point est important. Il est mentionné dans le Coran. Le Coran mentionne par exemple une victoire sur les musulmans contre les païens, des musulmans sur les païens à Badr, comme un signe de l'aide de Dieu qui aurait envoyé des milliers d'anges. L'année suivante, en 625, les musulmans ont été battus et le Coran explique que cette défaite est due à la désobéissance précisément des musulmans qui ont été ainsi punis par Dieu. Plus tard, en 630, une bataille a failli être perdue et elle a été rattrapée grâce à la solidarité des croyants, et Dieu du coup a envoyé les anges pour accomplir la victoire. Donc la vérité historique est aussi une expression de la volonté divine. C'est la suite de la révélation. C'est une 115e sourate, pourrait-on dire. Et ceci est aussi valable de nos jours. Mais accepter cela comme un fait accompli, enfin accepter le régime politique comme un fait accompli, ne revient pas du tout à sacraliser le pouvoir politique des califes et des sultans. Le calife était un chef politique d'abord. L'idée de la politique est apparu à l'époque abbasside notamment. Siyasa veut dire politique en arabe, c'est d'abord l'art de dresser les chevaux. Donc on voit que c'est un art qui est un art profane, disons, et les califes n'ont pas joui d'un statut religieux particulier. L'histoire omeyyade, abbasside, une histoire de rébellion qui montre bien que le calife n'était pas respecté en tant que chef religieux. Simultanément, et c'est là le point essentiel, c'est le droit, ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman, qui est devenu le centre de gravité de l'obéissance. C'est-à-dire que le pouvoir politique restait un pouvoir qui, malgré tout, était critiquable et faillible. Par contre, là où les musulmans étaient tenus d'obéir, c'est à la loi. Le personnage principal, au fil des générations, à l'époque abbasside principalement, le personnage principal est devenu le juriste. C'est le juriste qui disait ce que le musulman devait faire dans sa vie, et y compris dans les plus petits détails. Au fond, il est apparu que l'État califal, avait un rôle religieux dans la mesure où il nommait des juges et dans la mesure où il protégeait la pratique de la religion. Mais finalement, cette répartition des deux autorités donnait une certaine autonomie aux politiques. Donc on peut dire que dès les origines, les musulmans ont toujours vécu une séparation du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont théorisé la séparation du spirituel et du temporel. Enfin, en tout cas, les deux étaient quand même assez distincts. Ce que la loi recouvre, cette loi à laquelle il faut obéir, c'est pour une bonne partie du droit familial et de la culte, le culte bien sûr, et elle s'étend aussi à l'espace public, mais finalement dans une mesure beaucoup moins évidente. Par exemple, un des cinq piliers de l'islam, c'est l'aumône légale, la zakat. C'est une obligation absolue, puisqu'il fait partie de ces rituels qui définissent même la pratique du musulman. Mais au fond, la zakat, le prélèvement de la zakat, n'est pas d'un accomplissement aussi précis que le pèlerinage ou que la prière rituelle. Il y a beaucoup de pays où c'est l'État qui s'en charge, mais ailleurs, les musulmans, au fond, s'en occupent eux-mêmes et c'est devenu une affaire privée. Je veux dire par là que dès lors que la loi, c'est le culte et la sphère privée, elle s'applique de façon très précise. Dès lors qu'elle rentre dans l'espace public, les enjeux se brouillent. Je parle de l'aumône légale, on pourrait parler aussi de la fiscalité et d'autres points. Bref, au fil des siècles, la communauté musulmane, disons, a été gouvernée par des princes, mais finalement sans un État véritablement religieux. Les États véritablement religieux, c'était les confréries soufis avec véritablement un chef spirituel, reconnu comme chef spirituel, et qui gouvernait ses disciples, et qui faisait créer des sortes d'États virtuels à l'intérieur de la communauté musulmane. Alors, bien sûr, ça n'a pas empêché, au fil des siècles, la militance, en quelque sorte, pour que la loi... la loi religieuse, bien sûr, occupe un espace de plus en plus important dans le politique. Vous connaissez sans doute les noms de Ibn Taymiyyah, qui au XIIIe ou XIVe siècle a beaucoup milité justement pour que la politique prenne en charge dans la plus grande mesure possible l'application de la loi. De même, son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya, au XIVe siècle, a aussi beaucoup milité pour cela. Plus tard est apparu un courant comme le wahhabisme au XVIIIe, XIXe siècle. Bernard Héberger vous a parlé de ce slogan « L'islam est religion et État ». Ce sont des slogans récents. Ce sont des réactions récentes à une situation qui date d'il y a 2-3 siècles maximum. On peut voir en quelque sorte l'apogée de cette logique-là dans la politique de Khomeini. Bon, là, je retombe quand même un peu dans le chiisme. Puisque le pouvoir politique doit être finalement subordonné à la loi, autant que ce pouvoir politique soit assumé directement par les juristes eux-mêmes. Alors, comment maintenant... instiller la charia dans une situation politique de façon plus importante qu'il ne l'a été au Moyen-Âge, il faut se souvenir que le droit musulman ne correspond pas à une loi naturelle. Il n'est pas déductible par des principes généraux. Tout est décidé par Dieu, je l'ai dit en introduction, par l'intermédiaire de son prophète, mais au fond, les motifs de Dieu ne sont pas connaissables. La raison, le raisonnement, n'est pas un fondement du droit. La raison permet juste de savoir comment, selon quelle modalité, on peut obéir. Donc, au Moyen-Âge, cette interprétation était dévolue aux ulama. À l'heure actuelle, cette instance a beaucoup éclaté, d'où une certaine perplexité dans l'ensemble du monde musulman, et à mon avis, une perplexité qui ne peut pas être surmontée. Car en effet, si jamais on veut étendre le domaine du droit à des domaines qui... À des, pour des comportements qui n'existent pas auparavant, qui n'ont pas été prévus par les textes classiques et par les sources du droit, puisqu'il n'y a pas de raisonnement qui permette véritablement de déduire quelles sont les intentions divines, et c'est ce qu'affirme catégoriquement la théologie musulmane sunnite, puisqu'un tel raisonnement n'existe pas, il y a le danger pour ceux-là même qui voudraient, en tant que salafistes, imposer une législation islamique, le danger d'adopter une attitude satanique, c'est-à-dire comme Iblis, de dire non, Dieu, tu n'as pas raison, parce que moi, je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un d'autre que toi. Ou une posture pharaonique, où Pharaon parle à la place de Dieu, se met à la place de Dieu. Donc, cette posture est une posture dangereuse. Et une seconde alternative qui consiste à dire tout ce que Dieu, finalement, n'ordonne pas expressément, tout cela est quand même neutre et parfois une posture plus prudente au niveau de la théologie. Un second point sur lequel je voudrais insister, c'est que donc, le pouvoir de Dieu et celui du prophète sont joints, sont unis indissolublement, c'est ce que j'ai dit au départ, et que le leadership du prophète Mohammed, d'une certaine manière, me semble toujours actuel. Alors, l'affirmation peut paraître bizarre, puisque le prophète est mort le 8 juin 632. Il y a, au moment même de sa mort, une scène tout à fait marquante, qui est que ses compagnons ont été complètement stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à cette mort soudaine et non prévue du prophète. Et alors, un des principaux compagnons du prophète, Omar, qui deviendra le deuxième calife, s'est levé et a dit devant les croyants que personne, enfin il a dit, je résume, que personne ne croit que le prophète est mort. Le prophète n'est pas mort, il est parti comme Moïse quand il est monté sur le Sinaï pendant 40 jours et après les fils d'Israël ne l'ont pas attendu, enfin sous-entendu, et ont adoré le veau d'or, mais il va revenir. Et alors Abou Bakr l'a fait taire finalement, Abou Bakr, notre grand compagnon qui allait devenir le premier calife, et a déclaré devant les musulmans rassemblés là: ô homme, celui qui a adoré Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, mais celui qui a adoré Dieu, qu'il sache que Dieu est vivant et ne meurt pas. Et suite à quoi, donc Mohammed a été enterré. Donc la lucidité d'Abou Bakr a fini par triompher. Les califes ont suivi, ont régi la communauté de façon autonome. Néanmoins, Omar n'avait pas complètement tort. Le prophète est resté vivant. Bien sûr, j'ai expliqué tout à l'heure, le sunnisme s'installe au fil des siècles autour d'un dogme central qui est l'infaillibilité du prophète Mohammed. Comment interpréter le Coran selon l'enseignement du prophète Mohammed, parce que lui ne pouvait jamais se tromper. Il était infaillible, Dieu guidait toutes ses pensées et révélait tout ce qu'il avait à savoir. Donc le hadith est venu compléter le Coran de façon extrêmement étroite. Donc dans le droit, la chose est patente, puisque le droit musulman est fondé sur le hadith, plus encore finalement que sur le Coran. Le rôle de Mohammed a grandi par paliers. Les récits du hadith canonique racontent qu'il a accompli de très grands miracles. Il a fendu la lune en deux devant les païens pour prouver sa mission. Il a procédé à des guérisons miraculeuses, il a multiplié de la nourriture et de l'eau jusqu'à faire boire 1500 personnes. Des arbres ont témoigné de sa prophétie. Il connaissait tous les secrets du passé, de l'avenir, des choses éloignées dans l'espace. Autrement dit, c'était un homme largement supérieur à tous les autres humains. Tout cela est connu, c'est reconnu par le texte canonique, mais il t'importe de le rappeler, ce n'est pas sans incidence. Mais il y a plus. Le prophète est toujours présent. Il est toujours présent parce que, comme tous les défunts dans la foi musulmane, il est présent dans l'intermonde. Après la mort physique, après quand l'esprit se détache du corps, l'âme des défunts rejoint un monde intermédiaire qu'on appelle le barzakh, l'isthme, et dans l'attente de la résurrection. Et dans le temps entre leur mort et la résurrection finale, à la fin des temps, ils sont là. Et ils peuvent entrer en contact avec les vivants, notamment par des rêves, par l'intermédiaire des rêves, ou même, s'agissant des grands saints et des prophètes, par l'intermédiaire de visions à l'état de veille. Donc, il est tout à fait admis et courant que dans la, dans la société islamique, que l'on puisse voir des gens en rêve, sont ses parents, ses grands-parents, mais aussi les prophètes, mais aussi des anges, mais aussi Dieu lui-même. Or, Mohammed a dit, selon un hadith authentique, considéré comme authentique, « Celui qui m'a vu en rêve m'a vu en réalité, car Dieu ne peut pas prendre ma forme. » C'est-à-dire que tout musulman qui voit le prophète en rêve est sûr que c'est un rêve authentique et que le message qui lui a été transmis est un message authentique. Et de fait, depuis le décès de Mohammed jusqu'à nos jours, et y compris de nos jours, les croyants qui ont vu le prophète en rêve sont extrêmement nombreux. Cela a pu avoir des conséquences éventuellement politiques, cela a pu avoir des conséquences éventuellement chez les savants. Par exemple, les travaux de Léa Kinberg ont montré que les spécialistes du hadith, quand ils voulaient savoir si un hadith était ou non authentique, il leur arrivait souvent de voir en rêve le prophète Mohammed qui leur disait « ça, je l'ai vraiment dit, ça, par contre, c'est faux », etc. Et de même pour les lecteurs du Coran, pour vérifier les lectures du Coran, et de même dans d'autres domaines de la science. Le grand théologien Razali ira faire une synthèse, en quelque sorte, de l'importance de ces dimensions imaginales du prophète en termes théologiques. Il est bien clair, je dis tout de suite, que voir le prophète en rêve, je veux dire, c'est une affaire purement personnelle. Ça ne peut pas avoir d'incidence devant un tribunal ou dans une discussion juridique. Mais disons qu'au niveau personnel, si, cela peut avoir son importance. Donc, en ce sens, Mohammed reste contemporain, accessible aux croyants. Ceux-ci maintiennent le lien par ce qu'on appelle la prière au prophète. Le rite de cette prière au prophète, Salat ala Nabi, et c'est la réciter une formule qui est assez paradoxale, que Dieu prie sur le prophète et lui accorde le salut. C'est donc, quand on prononce le nom de Mohammed, le musulman qui respecte sa loi prononce cette formule automatiquement, enfin, ou le plus souvent qu'il le peut. Cette formule ne s'adresse pas à un défunt. Je pense que dans la conscience de la majorité de ceux qui la prononcent, elle s'adresse bien à un être vivant. Et les hadiths attestent que des anges transmettent à Mohammed les prières des croyants et que le prophète les reçoit, et que d'ailleurs, affirme un hadith, le corps des prophètes n'est pas décomposé, donc Mohammed est toujours en quelque sorte physiquement présent pour les entendre, pour les recevoir. Et lui, Mohammed, intercède continuellement pour ceux qui prient pour lui. Cette vénération s'est épanouie de plus en plus. Au XIIe siècle, le célèbre Qadi Ayad, un qadi de Ceuta, a écrit un kitab Shifa, très populaire, qui est une sorte d'encyclopédie de la piété dirigée vers le prophète, où il développe une idée, l'idée de la lumière mohammadienne. La lumière mohammadienne, c'est que Dieu aurait créé avant toute chose, avant même la création du monde, il aurait créé Mohammed sous la forme d'une lumière. Cette lumière s'est transmise de prophète en prophète. Comme le dit un hadith qui a été transmis par Bukhari, « J'ai été envoyé siècle après siècle au fils d'Adam jusqu'à l'époque, jusqu'au siècle où maintenant je vis. » Et donc d'autres auteurs, je ne vais pas les citer, ont beaucoup commenté cette idée que le prophète est non seulement un homme qui a vécu historiquement, mais avant d'être un homme qui a vécu historiquement, était même la matrice de toute la création. Cette idée prendra toute son ampleur dans le système de pensée d'Ibn Arabi, mais elle a des appuis, disons, qui lui sont antérieurs, notamment dans la tradition soufie. C'est en effet dans le soufisme que cette dévotion au prophète s'est développée, mais pas uniquement dans le soufisme. Je vous cite juste quelques extraits de la prière, par exemple, de Gilani au XIIe siècle. « Mon Dieu, prie sur notre Seigneur Mohammed, celui dont la lumière a précédé la création. » Mohammed est conçu comme véritablement la face humaine de Dieu. Dans la prière d'Ibn Mashish, XIIIe siècle, « Ô mon Dieu, lui, donc Mohammed, est ton secret qui englobe tout ce qui renvoie à toi. Il est ton voile suprême levé pour toi, devant toi. » Plus près de nous, Tijani, qui est mort en 1815, écrit dans sa prière, « Ô mon Dieu, prie sur, donc Mohammed, ta lumière brillante par laquelle tu as rempli ton univers et qui englobe tous les lieux. » Voilà, Mohammed devient la source de toute vie. Ceci imprègne la piété populaire. Il est important de le souligner. Au XIIe siècle est apparue la fête du Maulid, célébration de l'anniversaire du prophète, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, qui est devenue une fête populaire très courante. Et on peut noter qu'il n'a jamais été question de commémorer la mort du prophète, ce qui, bien sûr, n'aurait pas de sens, puisque, on vient de le voir, le prophète est une lumière prééternelle. Et cette dévotion, bien sûr, est populaire, bien sûr, elle est soufie, mais on la trouve répandue dans bien des milieux. Pour reprendre un auteur parmi d'autres, Abdussalam Yassine, qui vient de décéder, a écrit un livre, Minhaj al-Nabawi, où il recommande de prier sur le prophète, car prier sur le prophète, c'est bénéficier de sa compagnie, de sa sohba. Donc, prier pour le prophète établit un lien avec le prophète. Alors, je crois que tout cela a un rapport avec la question qui nous préoccupe de l'obéissance. Le prophète, bien sûr, ne joue plus le rôle de leader politique. Il est néanmoins présent dans les actes des croyants en permanence comme un modèle actif. La charia, au fond, c'est le prophète lui-même, tel qu'il se manifeste à l'intérieur de chaque croyant. Chaque croyant essayant non seulement d'imiter le prophète, mais en quelque sorte le devenir, s'unifier à lui. Aucun pouvoir politique ne peut faire abstraction sur ce point. Et vous voyez dès lors les dimensions que peuvent prendre les questions de caricature du prophète, par exemple. On va prendre un exemple récent. Le troisième et dernier point que je voulais rappeler ici, c'est que la société musulmane est une société qui vit depuis son origine, en quelque sorte, dans un horizon eschatologique. Eschatologique a deux sens. D'abord, c'est ce qui attend chaque individu après sa mort. Et en ce sens, bien entendu, l'islam est une religion qui agit à un niveau eschatologique. Par exemple, toute la pratique religieuse est là pour assurer aux croyants sa félicité dans l'au-delà. C'est pour ça que des actes qui nous paraissent des coutumes en Occident, comme vérifier ce qu'il y a à manger dans les cantines ou la question du voile féminin, nous paraissent des coutumes archaïques, alors que pour ceux qui les assument, cela peut engager véritablement leur destin dans l'éternité. D'où le lien avec l'obéissance, bien évidemment. Le second sens de l'eschatologie, c'est que c'est la fin du monde, enfin la fin de la société humaine en tout cas. Et dans cet horizon-là, disons, il est clair que dans le Coran, cette fin du monde est considérée comme extrêmement proche. Le Coran semble considérer l'impiété des Quraysh, mais quoi ? Comme méritant un cataclysme imminent. Le prophète lui-même semblait considérer que la fin du monde allait survenir très rapidement après sa mort. Il aurait dit qu'il souhaiterait saluer Jésus qui doit venir à la fin du monde avant sa mort, ou peut-être, il disait-il à des gens qui étaient avec lui, si je suis mort avant, transmettez-lui mon salut. La sira, la biographie du prophète, fait état de computations sur la durée de l'islam. Est-ce que l'islam durerait 50 ans, 70 ans ? Donc, il y a vraiment l'idée que, un peu comme dans le christianisme originel aussi, l'idée que l'histoire allait se terminer très bientôt. Plusieurs hadiths, les paroles du prophète, avaient affirmé que les événements finaux se produiraient lors de la prise de Constantinople. Les Omeyyades ont organisé trois sièges très importants de Constantinople qui se sont tous les trois soldés par un échec. À partir de là, on a commencé à organiser, je veux dire, à voir l'histoire avec un horizon plus éloigné. Mais de toute manière, du simple fait que Mohammed se présente comme le dernier des prophètes, il n'y en aura pas après lui, l'histoire est bornée par un horizon eschatologique. D'ailleurs, on peut voir qu'une bonne partie des révolutions et des dynasties qui ont régné l'ont été lors de grandes révoltes messianiques. Les Abbassides eux-mêmes étaient au départ une révolte de ce type. la dynastie des Fatimides qui a régné pendant presque 2 siècles en Égypte, 1 siècle et demi en Égypte, 2 siècles, elle aussi était issue d'un tel messianisme. Les Almohades en Afrique du Nord et en Espagne, les Séfévides en Iran, le Mahdi soudanais, étaient à chaque fois manifestation de révolte qui se considérait comme des révoltes annonçant la fin des temps. Même certains courants autour du wahhabisme saoudien ont manifesté cette tendance-là. Donc, l'histoire est marquée par tout ce qu'on appelle les conditions de l'heure, les signes qui annoncent la fin des temps. Et il est tout à fait, en quelque sorte, admis qu'il peut y avoir plusieurs Mahdi, plusieurs personnages apocalyptiques qui viendront diriger les musulmans, plusieurs antéchrists qui vont se suivre avant la fin proprement dite du monde, car c'est à chaque instant que le combat a lieu. Alors, cette dimension apocalyptique n'est pas forcément très prise en compte par les politologues et par les experts, qui voient une sorte de sous-discours un peu négligeable. Or, ce n'est pas une mode passagère. Elle est une partie intégrante de la vision islamique de l'histoire, même si beaucoup de régimes, notamment en Arabie saoudite, la redoutent. Elle a été présente dans beaucoup d'événements récents, par exemple dans la révolution islamique en Iran, où il y avait une attente messianique, enfin de l'imam Mahdi. Dans les questions du Proche-Orient, toutes ces attentes eschatologiques sont aussi extrêmement présentes parce qu'il est dit que les combats de la fin du monde auront lieu en Palestine et plus précisément autour de Jérusalem. Et actuellement, en Syrie, il se trouve que j'ai passé les 4 dernières années en Syrie et au début des événements, il est clair que il y avait une résonance eschatologique. Les événements qui se passent ont un sens dans cette optique-là, dans cette guerre contre les forces du mal qui vont déferler sur le monde à la fin. Alors l'important ici, c'est de voir que toute cette littérature apocalyptique, ces signes de la fin des temps, jouent leur rôle dans le fait d'obéir ou de ne pas obéir à tel ou tel mouvement ou tel régime. Et un certain type d'occidentalisation peut être perçu comme des signes efficaces de l'avancée des forces du mal. Et dès lors, les pouvoirs qui s'en réclament peuvent perdre leur légitimité. Et certains régimes très sécularisés peuvent envoyer des signes d'ordre apocalyptique, et bien sûr, enfin, ça dépend qui les reçoit, mais ceci peut avoir de grandes répercussions. Je pense par exemple à ces grandes cérémonies à Persépolis, en 1971, par lequel le régime du Shah a en quelque sorte manifesté une volonté qui a été perçue finalement comme quelque chose d'hostile, disons, à la finalité religieuse de la société. Alors, maintenant, pour revenir à la question première, à qui obéir ? Et comment être sûr que l'on obéit à la bonne autorité? On a vu que le musulman croyant, finalement, est toujours en tension, et à mon avis, il restera toujours, entre les origines de sa foi, à savoir le Coran et le prophète, lequel est vivant et présent, d'une part, donc l'origine, et les fins dernières, à savoir cette fin imminente du monde, et qui a déjà commencé. Alors, bien sûr, on pourra dire que tout ce dont je viens de parler, c'est, au fond, c'est plutôt des thèmes du passé qui appartiennent à une culture en voie d'effacement, et que l'actualité serait plutôt celle de la démocratie, de la question du niveau de vie matériel. Il me semble quand même que les sociétés musulmanes ont leur propre grille de lecture du monde et qui appartiennent à elles. Par exemple, on parle du printemps arabe, mais en parallèle, on peut voir que tout le continent méso-américain et sud-américain a été gouverné par des régimes forts, par des dictatures dans les années 70. Progressivement, ils sont passés de nos jours à des régimes parlementaires. On a l'impression qu'il y a aussi des questions de réaction de société, des sociétés qui réagissent de façon différente à la question de l'autorité, justement, et de la révolte à l'autorité. Donc, je pense que dans la compréhension de ces questions-là, ce qui s'est passé dans les premiers siècles de l'islam et dont je viens de faire état, continue d'une certaine manière à être présent, à être actif. À propos d'un article qu'il avait écrit sur l'Iran ancien, Henri Corbin écrivait « Un lecteur, peut-être un occidental, peut-être un iranien, viendra-t-il à me dire s'il a lu ces lignes ? Fort bien, mais ce qui nous intéresse, c'est l'Iran d'aujourd'hui, non pas l'Iran du passé. Mais qui vous parle ici du passé ? C'est vous qui avez rendez-vous, et vous êtes bel et bien un homme d'aujourd'hui. Si vous me parlez du passé au passé, c'est que vous avez manqué le rendez-vous. Ne vous en prenez qu'à vous-même. » Alors, j'espère avoir montré avec ces très modestes approches que la pensée musulmane classique est fondée sur une série ininterrompue de choix, toujours recommencés au présent. Ces choix, quoi qu'on en puisse en dire en parlant de politique, ces choix ont toujours comme but religieux final la conversion de l'individu et de le conformer au modèle des prophètes. Si nous revenons aux exemples donnés en introduction, l'exemple d'Abraham, l'exemple de Moïse, donc Abraham à qui il est demandé de sacrifier son fils, Moïse qui s'indigne de voir que l'enfant doit être tué, il est clair que le passage, ces deux passages, ne se rapportent pas du tout à des questions de droit ou de politique. Il est bien sûr pas, ça n'a rien à voir avec la question est-ce qu'on peut ou non tuer des enfants, c'est bien évident. Ces deux récits sont des récits d'ordre initiatique. La morale dans ces deux récits, c'est que dans les deux cas, obéir, c'est apprendre à se détacher de son avoir, c'est apprendre à se détacher de ses préjugés, de ses conceptions préalables. Et en fait, on peut risquer le mot, la vraie morale de ces passages, c'est d'apprendre à devenir libre. Je vous remercie de votre attention.